monde, il y en a poussif, etc. C'est qu'ils sentaient les choses. Tu comprends? Et puis comme malgré tout, à sa façon, il était honnête. Il pouvait avoir des tuyaux. Et alors il avait, lui, et comme on pouvait, comme il ne se mouillait en rien, même pas dans les affaires de publier un journal et autres, il foutait ça sur le dos à Rosselec, et démerde-toi, etc. Bon. Mais alors, il était pur, tu comprends? Des types sont, qui gagnaient bien leur vie, après tout, hein, mais sans besoin extraordinaire. Des types qui sont accrochés à un genre, peut-être, probablement un béglin ou un truc semblable, tu vois, qui n'ont pas de. Non pas de vie extérieure, c'est pourquoi d'ailleurs Nicole était un type restreint au point de vue de la conception doctrinale, etc. Seulement c'était un instinctif, c'est un agitateur, et il est donc normal qu'il soit un instinctif, et il sentait les choses. Moi, en parenté, je sens beaucoup les choses. Tu vois, ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas l'esprit. Mais je vois ça grand comme ça, mais je n'ai pas l'esprit policier, tu vois. Je n'aime pas le système de l'enquête. Par exemple, je connaissais jamais rien de la vie des gens. Les politiciens, par exemple, leur grand blablabla, hein, ils s'arrangent, ils connaissent, tiens, tu sais, celui-là, il a la fille du copain, etc. Celui-là, tu sais, un peu pédant. Celui-là, puis celui-là, etc. Avec toutes les petites insinuations, etc. Alors moi, j'habitais toujours sur la cour. Je connaissais rien. J'avais pas de temps. Tu comprends? Mais par contre, alors je pige dans les trucs. Je pige dans les trucs. Et c'est ce qui m'a permis que, sans moyens, j'ai réussi quand même à vivre encore, quoi.
Et bien, suffit. J'ai pas les coupures et je crois bien que ça s'est passé aussi. J'en ai eu la confirmation parce que mon frère entre autres, c'est de mémoire. Il était un faux monnayeur il était impliqué dans une affaire de faux monnayage avec le fils Brovaron, l'ancien entrepreneur de carrelage. Mais tu comprends, c'est trop. Mmh. Ils étaient tous chrétiens sociaux avec Dionysotti, le Valaisan, etc. Qui est un type solide, ce Dionysotti. Il a réussi à mettre en échec le trust du ciment. Tu sais, il avait monté sa boîte lui-même, etc. Et alors, il avait son équipe de catholiques. Avec encadré par les chrétiens sociaux, etc. Alors moi, j'arrive quand même à enfiler quelqu'un là-dedans. J'ai dû retirer mon type, c'est ça, il l'avait enfermé dans un séchoir, qui n'était pas crevé. Hein. Vraiment des salauds, les gangsters. Ouais, bref, quoi. Imagine-toi qu'il était en crosse, il avait, pour faire son ciment, il avait besoin des calcaires du Salève. Et il avait loué la tour d'Arles, le château. Il y a un château vers le bout du monde, là, mais du côté de la Villette, là, avec une tour. Et il contrôlait, il avait ses camions, hein, qui faisaient ça, alors il avait fait mettre des immenses numéros, puis contrôlait depuis la tour. Bon, mais c'était pendant la guerre. Alors il avait un jardinier, espèce aussi de fou. Hein. Il me dit, il me téléphone, il me dit, dis donc, le patron n'est pas là, viens voir, etc. Je dis, non, Dieu, c'était un guet-apens, j'étais en pleine bagarre avec lui. C'était pendant la guerre, hein. Moi, je fous le pistolet dans la poche, puis tu vas toujours aller voir. Alors, il m'a montré, le type, tu sais, il s'était fait une casemate dans son château. Un château fort. Alors bon, moi je me gaffais toujours que la porte se ferme pas. Mais tu sais, c'est le même Dionysotti que quand il a fait le pont au-dessus des gorges du Trian, hein, il a fait une inauguration, il a fait venir le Conseil d'État, les curés qui sont venus là, et puis une section de fusiliers qui ont tiré des salves de fusils, putain, des trucs de fou. Je te dis, en voir de toutes les couleurs, quoi. Bon, tant pis pour Dionysotti.
Au plafond, donc c'était des petits tuyaux de caoutchouc, de cuivre, de laiton. J'avais utilisé une de ces lyres, puis j'avais fait des trous, et puis je mettais un tuyau que j'accrochais au robinet. Puis je me mettais dans un grand baquet, et puis je prenais ma douche comme ça. Hein? On ne faisait pas tous les jours, d'ailleurs, tu vois. Alors, mais comme type du bâtiment, on travaillait à poil, etc. Alors, le torse nu très souvent, etc. Le métier moins sale que celui de ramoneur. Là, les ramoneurs devaient se débarbouiller. Alors bon, ils s'habillaient, ils serraient leurs trucs autour du cou, etc. Ils avaient surtout les bras et la figure à laver, quoi. Ah oui, c'était... problème de propreté, tu sais. Et pour te laver le derrière, c'était tout un problème. Pour un peu qu'il y ait la famille...
Ouais, c'est ça.
Puis qu'il y avait des tabous encore maintenant. Bon, les gens encore, ils se foutent à poil, même dans les familles ou autres. Mais là, à l'époque, tu vois, c'était la discrétion, hein, dans la famille. Alors, c'est contre quoi? On a protesté contre la promiscuité des familles nombreuses, des familles ouvrières nombreuses, etc. C'était ça, c'était la vie, tu sais. À 3-4 dans un lit, hein. C'était deux en haut, un ou deux en bas. Hein.
Alors comme ça, un salaire de 12 francs par journée, et vu qu'à l'époque les logements ouvriers n'avaient pas de salle de bain, la reconnaissance d'une indemnité journalière de bain dans une buanderie.
Voilà.
Parfait. Buanderie ça, je veux dire que je ne savais pas du tout.
Buanderie publique. Parce qu'il pourrait y avoir des buanderies privées.
Alors c'est marrant, j'imaginais pas du tout que...
C'était un grand
problème. C'est apparu quand ça? Au lendemain de la guerre, les salles de bain?
Ça a commencé au mât, imagine-toi, ça a commencé... Non, vers les années, voyons voir, 30, oui, après 30.
Ouais.
Quand ça a été les premières opérations, c'était quand ils ont démoli les terreaux du temps pour faire avec Braillard les immeubles de Vieux-Cieux. Et là, il a fallu instituer ce qu'on appelle maintenant des assistantes sociales, parce qu'il fallait aller visiter chaque mois les appartements, parce que les gens ne servaient pas les baignoires, ils foutaient des trucs dedans, ils en faisaient des tables ou quoi que ce soit, ou voire même ils élevaient des lapins. Dans les chambres, les gens ne savaient pas se laver. Et sais-tu, mon vieux, que tous ces trucs d'arabes, etc., de machin, de Sicile et du sud de l'Italie, ne savaient pas utiliser les WC dans nos baraques. Dans les baraques d'immigrés, là. Ils n'avaient jamais vu de WC.
Mais c'est marrant, j'y pensais parce que.
Si tu as été voir, parce que moi j'y suis allé, j'ai été visiter là-bas, parce que quand on nous emmerdait à propos, quand même, on exagérait à propos des conditions des saisonniers, quoi, que j'aime les campagnes, contre les baraques, etc., etc. Mais à côté de ça, quand c'était dit par nous, ça allait, mais quand on voulait venir
qu'elle nous donnait des leçons en nous traitant de salauds, etc., je trouve que c'est un peu exagéré.
Tu parles des gauchistes, là.
Oui. Et alors, moi, j'ai été faire des photos, etc., mais sans aller jusque-là, tu pouvais, par exemple, connaître Nanterre. Comment crois-tu que les gens de Nanterre vivaient? Ah, à Paris. Dans la banlieue rouge, dans les bidonvilles, on vit comment? Et comment crois-tu que, par exemple, même au Vietnam, etc., au Vietnam, par exemple, tu vis sur les sampons ou sur les pilotis, par exemple, et puis t'as le... t'as vu ça,
c'est sûr. Non, mais simplement, ce qui m'étonnait, c'est que j'avais dans l'idée... pur préjugé que c'était plus vieux que ça, tu vois, qu'il y avait des salles de bain dans les appartements. J'aurais pensé
Les premiers sont faits. Tous les bâtiments qui sont de la jonction, par exemple, Carouge.
C'est vrai que mon frère, j'habitais chez mon frère, il n'y a pas de salle de bain.
Mais imagine-toi, par exemple, que l'eau, tu n'avais pas l'eau courante. Tu n'avais pas l'électricité avant la guerre de 14. Tu avais entre autres, le grand progrès, c'était que de venir au compte-gouttes avec des réservoirs qui étaient sur les hauteurs, par conséquent, il y avait le problème de du transvasage. Alors l'eau venait dans des réservoirs dans les greniers. Je pense au terreau du temps, tout ça, tu sais, toute la mer qu'on a démolie en 35.
Ah ouais, ici, c'est là, bien sûr. Vois,
et bien, et puis ensuite, ça te tombait dans ce qu'on appelait des pierres à eau, c'est-à-dire des pierres que l'on avait taillées dans le granit, dans la pierre de Thoiry, par là autour. Et on avait là des récipients, donc en pierre, et puis tu avais l'eau qui tombait dans un évier, mais c'était le. C'était déjà du luxe. Autrement, tu allais à la fontaine, en bas, etc. Non, non, on ne se rend pas compte, moi.
Non, on se rend pas compte du
Ma chaud. Vie d'enfant, c'était encore presque une vie du Moyen-Âge, à Carouge. Franchement.
Non, je pense que ça devait être comme... Quand j'étais au Népal, si j'imagine très bien que les trucs que j'ai vus au Népal maintenant, ça devait être comme ça, je dirais, au début du siècle.
Alors moi, quand j'étais en Afrique, etc., tu sais, on a parlé, par exemple, de la colonisation des Belges et autres. Moi, j'étais à Léopoldville assez rapidement, au moment de l'indépendance. Ben, quand les Noirs sont venus dans les bâtiments, évidemment, très rapidement, tous les ascenseurs, même des gratte-ciels ne marchaient pas, etc. Mais les gens se sont mis avec leur petit fourneau, faire le feu dans les appartements, enlever les lampes de parquet, etc. Et puis ils ont été là, quoi. Non. La différence, c'est que là, un syndicat pouvait prendre des décisions d'organiser quelque chose. Maintenant, ce serait plus possible. Il faudrait que ce soit la section. Alors, si tu as un comité de section, un connard comme celui qui m'a engueulé à la TV, tu vois, tu peux rien faire.
Alors, si on disait... les responsables de la section des maçons du syndicat de la FOBB.
Non, parce que ça n'était pas. Non, parce que ça donnera. Ça donnera la confusion avec la section générale.
Ouais,
c'était vraiment le syndicat. Tu vois.
Alors le syndicat des maçons de la FOBB.
Voilà.
Hein. Comme ça, c'est. Ouais. Ouais, très bien. Parce qu'autrement, tu vois, comme on a utilisé l'expression ouais. syndicat des maçons pour le syndicat autonome des maçons, au début, on se perd.
Oui, d'accord.
Tandis qu'en mettant comme ça, on voit qu'il y avait un syndicat de maçons à l'intérieur de la FOBB.
Dans le fond, dis donc, chez François, est-ce qu'il donne à sa... À sa dactylo, dans le fond, un écran qui permet d'agrandir les
non.
pas.
Ça existe, ça?
Oh, ça doit exister, effectivement. Tu vois, comme les dactylos tapent les yeux fermés, etc. Tu vois, ce serait pas mal. Je vais lancer ça. J'entends tout le monde pour le truc de... Tandis que... bon, je sais pas comment je te dis, mais par exemple, l'inertie...
Ouais. Je me réjouis, le premier jour où je vais arriver ici avec des pages qui seront nettes, tu n'en pas tes yeux, tu es tellement ouais. convaincu que c'est impossible à partir de ça.
Oh, moi, ça me dépasse. D'ailleurs, je trouve que c'est salaud, je vais le dire franchement, mon opinion, je trouve que c'est salaud. De...
Non, mais je te promets.
Je dois te dire que si je te fais un manuscrit, je me suis donné beaucoup de peine, bon, je ne sais pas faire mieux, très probablement, mais enfin, je me suis donné beaucoup de peine pour tâcher d'être lisible. J'ai refait le papier avant de te donner. C'est pas possible.
Tu vois? Bon. Non, mais là, il va me regarder ses pages, il connaît bien ses secrétaires, il sait ce qu'elles sont capables de faire, puis il va me dire, ça, Charles, ça va pas, tu réécris.
Oui, mais elles ont besoin de se syndiquer, ces filles.
Elle travaille dans une structure hyper paternaliste avec un patron délicieux.
Oui, elles ont. Oh, mais non, mais je pense pas à elles, je pense à.
Les secrétaires en général.
Non, aux filles qui travaillent comme à la tribune de Genève, etc. Parce que ce sont déjà les femmes qui remplacent les victimes. Ah oui? Pourquoi ce sont les femmes, ce sont les Américains. C'est pourquoi maintenant on fait tout en photo, en photocomposition, les gens. Tu vois, tout est rotatif, tout ça, ça se fait en photocomposition. Alors, ça, ce sont les dactylos qui tapent ça, puis ensuite, les journalistes ou le metteur en page te fait que des découpures.
Alors qu'avant, c'était les typos qui faisaient.
Avant, c'était les typos, puis il y avait des lignes, etc. Alors, il classait, il arrangeait, il faisait quelque chose, tandis que maintenant, crac, crac,
c'est tous les filles qui font des lignes.
Ben, bref.
Selon à chaque fois qu'il y aura violation des horaires qui fixait la durée du travail de 7h du matin à midi et de 14h à 18h avec fermeture des lieux de travail le samedi après-midi. Bon, ça va. Alors, ici. Oui, c'est là qu'on nage dans la terminologie. Suscité par la mauvaise foi des entrepreneurs, la LAB devient rapidement pour tous les syndicats du bois du bâtiment. Mmh. C'est qui ça? C'est la FOBB? C'est...
Oh non, ouais. En l'occurrence, il n'y avait que nous qui existions.
Pour tous les syndicats du bois et du bâtiment de la FOBB.
Non, il ne faut pas.
Dire.
Non, il n'y avait que ça qui existait autrefois. J'entends, bon, les chrétiens sociaux ou les autonomes n'existaient pratiquement pas.
Ouais.
Non, ils étaient sans aucune.
D'accord, ouais, je comprends.
Même l'autre coup, là, c'est presque même pas nécessaire, mais enfin, ça vaut mieux puisqu'on avait le syndicat des maçons autonomes avant. Mais il faut se mettre dans cette optique. Il n'y avait qu'un seul syndicat, c'était le mien, quoi. C'est ce qu'on m'a tellement reproché, d'ailleurs.
Qui se crée successivement au cours des années dans chaque métier un groupe d'action sérieux et efficace. Ouais, j'ai mis ça comme référence. Le soir, le samedi, le dimanche, pendant les jours fériés, des équipes de patrouilleurs harcèlent les entrepreneurs et les ouvriers pris en faute de travail après les heures contractuelles, sinon légales. C'était tous des anarchistes? Non. Ils étaient combien?
Et parfois spontanés. Tu vois, des équipes du quartier, etc.
D'accord.
On avait même parfois des voisins du chantier qui n'étaient même pas du métier, qui se joignaient aux gars de la FOBB, tu vois.
Ah ouais.
Des types, des métallos ou d'autres métiers. Quoi.
Ah,
oui, qui avaient l'esprit syndical, tu vois. Puis ils donnaient un coup de main quand il y avait une petite... une petite bagarre, un attroupement sur un chantier, etc. Ou parfois même, ça provenait qu'on intervenait parce que c'était des voisins et qu'on avait marre d'entendre taper à côté, etc. En dehors des heures, ça les gênait. Il nous téléphonait, puis alors on avait même l'appui des voisins. Tu comprends, il y avait tout un climat, quoi.
Ouais. Qu'est-ce qui est écrit ici, je vois pas. Sont acceptés de la loi sur les fabriques. Qui seul.
Ah, attends, oui, oui. Alors, il faut dire, c'est la construction et l'artisanat sont acceptés de la loi sur les fabriques. C'est que ils ont pu faire la paix du travail, ils ont pu faire qu'une seule convention collective dans toute la métallurgie. C'est parce qu'il y a une loi fédérale sur les fabriques. Alors il y a tout un problème, que ce soit l'hygiène, que ce soit les horaires, que ce soit les dérogations, que ce soit les suppléments de salaire en cas d'horaire, etc. Tout est compris dans la loi sur les fabriques. Tandis qu'en dehors des seuls ouvriers des usines, tous les autres, ils sont à la merci du patronat. Tu comprends, il n'existe pas de réglementation. C'est pourquoi il était nécessaire de pouvoir faire des contrats collectifs. Alors, la loi est un minimum de base, ce qui te permet ensuite de partir de cela pour faire des améliorations. Alors, c'est ce qu'ils font dans la métallurgie, mais dans le bâtiment, tu ne peux pas. Tu as encore actuellement, tu as des ouvriers sur les chantiers qui travaillent 52 heures dans les campagnes. C'est sûr. Et qui doivent être admis par la convention nationale. Et dans la convention nationale, tu as des 44 heures comme Genève, puis tu as des 52 heures dans une montagne du Valais ou du Tessin, ou de Goury, enfin bref, dans ces bleds, tu comprends. Ah, c'est...
disparité.
Bon, alors, encore là, tu vois, bon, c'est toujours les discrétions, on arrive toujours. La réglementation, elle s'est faite à un moment donné, ça a été assez normal. Il y a un élément nouveau. C'est que maintenant, les gens en veulent des loisirs, les gens sont devenus cossards. Avant, le travail c'était ma vie, hein, selon la formule. Hein, le travail fut sa vie. Bon, bon alors... avant, le travail était véritablement un devoir et un besoin. Maintenant, la notion de devoir a disparu, ça n'est plus un besoin, parce que les gens ont de la marge. Alors, ils sont devenus que ça. Et même ceux, alors c'est là où il peut y avoir, même les indépendants qui travaillent comme ça, mais ils se payent quand même largement... pendant que les autres font 3 ou 4 semaines de vacances, les indépendants, ils s'en payent beaucoup plus, etc. Mais parce qu'ils ont travaillé la nuit, ils se sont démerdés, ce sont bons. Mais à côté de cela, ce qui est grave, c'est que dans le gros travail collectif, dans les entreprises, maintenant, il n'y a plus de contrôle syndical, pratiquement. Ils laissent tout faire. Tu comprends? Alors, il y a une sorte de dégradation, et la seule restriction, c'est précisément les gens sont que ça. Alors, ils renaclent, ou ils font, mais ils ont moins besoin d'argent. Alors, ils disent, merde, etc., on ne va pas se casser derrière, etc., bref. Mais autrement, le syndicat fait absolument plus rien de contrôle. Hein. Non, c'est ça. C'est une complète dégradation. Je me souviens d'une histoire à la rue du commerce. Bah, qu'est-ce que tu veux on a une assemblée à la salle communale, on était 200-300 à la salle du Faubourg. Un copain m'a dit, dis donc les gars, ça turbine à la rue du commerce, etc. Je lève la séance, c'est les 200-300 types qui vont chez Görg. À la rue du commerce où se trouve la banque centrale coopérative maintenant, et puis on fout tout le magasin en l'air, c'était tout une foule, tu comprends? Mais par contre, ça pouvait être un, deux, trois types, tu sais, qui d'une seule nuit te fout en l'air toute une série de fenêtres en maçonnerie. Tu sais, on faisait les fenêtres, on les posait d'abord sur des piliers de maçonnerie, puis ensuite on venait avec les murs, n'est-ce pas? Par exemple, au Grand Saconnet, toutes les fenêtres d'un bâtiment, depuis le deuxième étage, ont culbuté dans les cours. Tu comprends, il n'y avait qu'à pousser. Des fois, il peut y en avoir qu'un qui va dans un où il y a des salles de bain, etc. Puis il a simplement un tournevis ou son couteau militaire avec le tournevis, puis il passe ça dans les joints, puis crac, 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 crac. Ils font toutes les parois de la chambre de bain pour la faire, il était seul. Puis de laisser juste cette indication de la polémique avec les communistes, et puis on laisse courir. Ceux qui veulent d'autres explications, ben ils les rechercheront, ou je les leur dirai. Tu vois, hein?
Uh-huh. Ouais, c'est une option, ouais.
Pas puisque c'est court, moi je craignais que j'aille répéter à nouveau le truc. Pratiquement, cela voulait dire que pour Genève, par exemple, pour toute grève non statutaire, les subsides ne seraient pas accordés. C'est pourquoi presque toutes les premières grèves, eh ben, c'est
ouais,
ça va très bien. Ça nous donne notre position à nous. Seulement, évidemment, alors il faut dire également, alors voilà où ce que tu pourrais faire. Cette mesure montait sur les tables. Et puis t'avais le président qui avait pris un tout pain de vache pour t'acheter. Et t'as coup, c'était une histoire vraisemblable.
Mais on y reviendra tout à l'heure parce qu'il faut que tu en parles plus de cette. J'aimerais avoir plus d'explications sur ce que ça a été la division de la FOBB, tu vois, par rapport aux communistes. Mais on en parlera tout à l'heure.
Je crois un secrétaire central exclu, je crois, un peu type, je crois. Mais d'une façon générale, c'était des bagarres qui ont duré des années. C'est pas parce qu'il y a eu, on a évité des exclusions. Par exemple, à Genève, j'avais une demi-douzaine de types à foutre dehors. Je me suis toujours opposé aux exclusions, d'ailleurs.
Aux exclusions des communistes, tu as opposé?
Ah oui, je me suis battu avec eux, j'entends, tu vois, même des fois physiquement dans des incendies, tu sais. Mais j'étais opposé aux exclusions.
Pourquoi? Aux exclusions des communistes, t'entends?
Ah, parce que c'était. Bon, c'était des mesures répressives, quoi.
Ouais, c'est
vrai. Tant qu'on était dans le. Dans la ligne de. Enfin, dans la discussion, qu'est-ce que tu veux? C'était le jeu, quoi. Hein? Les intrigues, sortir une majorité ou pas, etc. Bref, il fallait se battre, tu sais. Je me battais comme des frères. Pas parce que c'était embêtant. Par exemple, tu venais, après de gros pourparlers, tu venais avec quelques améliorations, mais évidemment, c'était un compromis. Alors les types étaient que tu avais chauffé pour faire de la pression sur les patrons, qui étaient prêts à faire grève, etc., tout simplement parce qu'ils leur manquaient 2 centimes, ils voulaient te faire grève. Alors c'est là où tu dois arriver, et par ton influence et par tes efforts, pour empêcher que les gens se foutent dans un... il vaut mieux perdre 2 centimes que de faire 4 semaines de grève. Responsabilité, quoi, quand ça ne sert à rien. Et alors, tu avais les communistes qui, à ce moment-là, en donnaient tant et plus, les communisants aussi. Alors, tu avais des assemblées houleuses
avec des centaines de types, hein. Il faut tenir tête, parce que tu veux pas que les gens soient foutus dans une souricière.